Fred Blanchard. Fred Blanchard est demandé par sa maman Simone Chaillol.
Bien, bonjour à tous. Cher public des Utopiales, je suis désolé. Je suis obligé d'interrompre le festival, car nous avons eu une nouvelle très importante. Une nouvelle qui va bien au-delà des projets que nous avions pour les Utopiales cette année. Ce ne sera probablement pas sur vos tweets ou vos Facebook, car pour l'instant, la nouvelle est absolument confidentielle. Et c'est uniquement grâce aux relations de notre président Roland Lehoucq que nous avons cette information aujourd'hui. C'est pourquoi, avec une certaine forme de solennité, je dois vous annoncer quelque chose qui changera probablement à jamais la conception que nous nous faisons de la vie sur Terre et peut-être de notre humanité. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé un monde extrasolaire semblable à la Terre. Le voilà. C'est une image d'artiste, mais nous avons les images satellites et nos plus puissants télescopes l'ont trouvé. Deux choses sont importantes pour que vous compreniez bien l'enjeu de cette nouvelle. Non seulement c'est un monde semblable à la Terre, à la fois en masse, en taux d'oxygène, en pourcentage d'océan, 80% d'océan a priori d'après les premiers relevés, un taux d'oxygène suffisant pour correspondre à une vie telle que nous la connaissons. À ce jour, nous n'avons capté aucune autre information ou aucune information susceptible de nous faire penser qu'il y a peut-être des formes de vie intelligentes. Mais en tout cas, ce monde est probablement un monde riche en vie animale, végétale, et peut-être abrite-t-il une biologie qui changera à jamais notre conception de la vie. Et puis, et c'est peut-être ça le plus émouvant et le plus déstabilisant, ce monde est proche, mes amis. Il n'est pas à l'autre bout de l'univers. Il n'est pas à des années et des années-lumière de la Terre. Nous pouvons l'atteindre. Il faudra, bien sûr, d'immenses efforts à l'humanité si elle le décide. Mais nous pouvons l'atteindre. Et c'est pourquoi j'ai réuni aujourd'hui trois spécialistes en interrompant le programme de ce festival, en le réorientant avec l'accord de toute la Cité des Congrès, de Marie Masson, de Paul Biodo et de Rachel Bauchet, et d'Emeric Seasso. Je vous présente ces trois spécialistes. Le quatrième a peut-être été empêché pour d'autres raisons, mais peut-être nous rejoindra-t-il tout à l'heure. Merci de présenter ces spécialistes. Roland Lehoucq, astrophysicien, auteur et président du festival Les Utopiales. Laurent Genefort, auteur de science-fiction, multiprimé, encore hier. Spécialiste hors pair des extraterrestres, comme vous avez pu le constater sur cette interro-surprise. Olivier Grasset, directeur du laboratoire de planétologie de Nantes et chercheur infatigable de Nouveaux Horizons. Et Frédéric Blanchard, qui peut-être nous rejoindra, illustrateur, concepteur de cette magnifique exposition autour des séries B des éditions Delcourt. Alors messieurs, merci d'être là.
Merci.
Merci de relever ce défi qui va bien au-delà de la science-fiction et de la réalité. Et j'ai envie de vous poser une première question. Nous avons ici fermé la Cité des Congrès. Personne ne peut sortir pour l'instant. Vous êtes les seuls à être au courant. Nous avons paralysé les réseaux sociaux et fermé les réseaux Internet. Ils vont décider une première chose très importante. Messieurs, qu'allons-nous faire de cette information? Faut-il la diffuser immédiatement, largement? Faut-il la retenir et graduellement l'édulcorer peut-être pour éviter des émeutes, des guerres, peut-être une déstabilisation complète de notre système monétaire, ou la chute de gouvernement? Faut-il gérer son impact ou faire prévaloir la liberté de l'information et de la communication? À vous la parole.
C'est moi qui m'y colle. Alors ça échappe un peu à la SF parce que il me semble que des protocoles existent déjà et qu'au niveau international, quand c'est un télescope qui découvre quelque chose, ça relève du domaine public. Et donc, je crois qu'il y a un protocole pour ça, en fait. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse, de toute façon, cacher des choses comme ça, sans, voilà, pour programmer ce qui doit être divulgué ou pas.
C'est vrai que du point de vue, pour les scientifiques, il y a évidemment, quand on fait des observations, il y a du temps de télescope qui est demandé, ou du temps de télescope au sol, ou du temps de télescope en orbite. Ça, c'est pour faire l'observation. Les gens, d'abord, font l'observation, voient quelque chose de curieux, éventuellement quelque chose de très curieux, une nouvelle planète dont on a plein d'informations. Évidemment, dans le protocole scientifique, il y a d'abord... voilà, on est content, il y a quelque chose de très curieux, une découverte, finalement, une grande découverte. Il faut souvent la valider, évidemment. Elle va être d'abord... l'équipe qui est l'auteur de cette découverte va revérifier son travail, revérifier ses informations, revérifier tout ce qui s'est passé dans les mois ou les semaines qui ont précédé la découverte, pour s'assurer qu'il n'y ait pas un artefact, que ce n'est pas un problème. Ensuite, elle va être automatiquement, ça c'est dans le processus scientifique, c'est automatiquement soumis, publié, soumis à un comité de lecture, à une revue qui va être publiée, ça va être publié, de sorte que d'autres personnes, c'est ce qu'on appelle la validation par les pairs, PAIR, PAIRS, ils sont plusieurs, et vérifier que tout s'est bien passé. Et éventuellement, ensuite, d'autres équipes vont voir la même chose, tenter d'observer la même chose, vérifier si ce qui a été dit a été fait selon les normes. D'abord, la procédure a été suivie. Ça ne valide pas la réalité de l'observation. Ça valide que la procédure d'observation n'a pas été mauvaise, n'a pas été perturbée par aucun problème. Et puis ensuite, d'autres vont essayer de faire la même observation pour vérifier s'ils voient la même chose. Et puis quand tout le monde, plusieurs équipes indépendantes, en différents endroits, éventuellement des équipes concurrentes, donc elles veulent montrer que l'autre s'est trompé ou a fait une erreur dans l'observation ou ne s'interprète pas de la bonne façon. Quand tout ça a fait consensus, alors la découverte est finalement validée. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la découverte il y a 20 ans maintenant de la première exoplanète par Michel Mayor et son équipe. Ils ont d'abord vérifié que ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils pensaient avoir vu comme l'indice indirect de l'existence d'une exoplanète était bien la preuve de l'existence. Ça a été publié. Et puis ensuite, deux nouvelles découvertes ont été faites. Cette exoplanète a été confirmée par d'autres équipes. Et puis d'autres exoplanètes sont arrivées, bref, etc. Et maintenant, on en découvre, on en connaît plus de 2000. Et on en découvre régulièrement tous les mois. Donc il y a quand même un processus scientifique. Si c'est une équipe scientifique qui fait ça, ça ne serait pas la même chose si c'était un vaisseau extraterrestre qui se pose sur Terre. Là, si c'est la découverte, donc ça sera fait forcément par des scientifiques, parce qu'il faut avoir tout le protocole, les instruments et le protocole d'observation, ça sera de facto publié dans la communauté scientifique. Et comme il y a de nombreux acteurs qui écoutent, qui regardent, qui lisent ce qui se passe dans la communauté scientifique, ne serait-ce que des journalistes scientifiques, ça sera de facto public très rapidement. On le voit par exemple avec la planète, la Kik avec un numéro infernal, où des scientifiques ont publié le papier qui disait « Ah, cette planète, c'est bizarre, les variations de luminosité non périodiques et très importantes. » Ça a été publié comme un papier scientifique qui disait « Voilà, on voit ça. » La publication scientifique a validé que le travail avait été fait correctement. L'interprétation qui en a été faite, après, ça a donné jeu à, je ne vais pas dire à des rumeurs, mais à des interprétations très variées, dont il y a des mégastructures. Il y a peut-être Omal en construction autour de l'étoile, enfin ils disaient pas au mal parce que les Américains, mais ils disaient des sphères de Dyson en construction autour de cette étoile, qui est une interprétation, disons, extraordinaire. L'interprétation qui est le vent en poupe chez les scientifiques est celle de, il y a des poussières, des choses qui se passent devant l'étoile, qui sont en quantité suffisante pour obscurcir notablement son rayonnement et qui sont non périodiques, donc qui font les effets que l'on constate. C'est moins extraordinaire, mais plus plausible. Mais c'est tout de suite posé devant la communauté scientifique, évidemment, et de facto devant l'ensemble de l'humanité.
Si j'ai bien compris, puisque là, on a une réunion très importante, puisque les gens qui sont là, avec le comité d'experts qui est présent devant nous, on va devoir décider ce qu'on fait. Si j'ai bien compris, là, on est sûr que c'est bon. C'est-à-dire que tout ce que tu viens de dire, c'est validé. On a toutes les équipes. Le Science Management Plan a été respecté. C'est-à-dire que les données ont été propriété des équipes, le temps nécessaire à faire les analyses. Aujourd'hui, on est devant le fait accompli. Très bien. Donc, c'est normal. Ça nous arrive assez souvent. Il y a des super découvertes. Qu'est-ce qu'on en fait? On cache jamais rien jusqu'à maintenant. En tout cas, j'en suis pas au courant. Mais là, on a un vrai problème. C'est ce que j'entends. On a un vrai problème puisque quelque part, la décision qui va venir derrière, qui concerne le spatial, c'est à quel moment on doit appliquer les normes de protection planétaire. C'est-à-dire que si c'est une vraie Terre, est-ce qu'on a le droit d'y aller ou pas? C'est comme pour le lac Vostok, c'est comme pour tous ces endroits où on a peur de contaminer, comme Mars ou ailleurs. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que la décision qu'on va devoir prendre, elle va dépendre de ce qu'on décide de faire sur la protection planétaire. D'où ma question, est-ce que tu sais quel est l'âge? Parce que avant de débattre de quoi que ce soit, faut qu'on sache quel est l'âge du système.
L'âge du système, je ne le connais pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, tout a été vérifié. Je n'aurais pas interrompu le festival pour une fausse annonce. Donc, tout a été bien vérifié. Le protocole de vérification que tu évoques a été entièrement accompli et suivi. Je suis heureux d'entendre aussi le président Roland Lehoucq bien rappeler qu'il n'y a pas possibilité de masquer ou de cacher l'information.
Ou alors, c'est qu'elle était bien cachée.
Rassurez-vous, l'information est déjà diffusée.
Non, voilà. Donc, a priori, découverte scientifique, elle est automatiquement publique. Dès que les scientifiques ont décidé que... en interne, dans leurs propres travaux, ils trouvent un truc... Reprenons par exemple l'exemple des neutrinos qui étaient supposés aller plus vite que la lumière. C'est une autre... C'est vraiment une autre discipline, mais ils ont passé 6 mois à se prendre le chou, à dire « mais c'est pas possible, quoi, on a dû merder quelque part ». Et puis faute de trouver l'endroit où l'erreur supposée, et faute d'avoir une bonne réponse en interne, mais en ayant validé tout leur protocole, c'est-à-dire tout leur protocole leur semblait correct, et en même temps ils n'avaient pas de réponse... Ils se résolvent à la mettre devant la communauté pour cette fois-ci élargir le champ des discussions et dire, ben voilà, il y a cette chose bizarre, on publie un article là-dessus, voilà tout ce qu'on a fait. On vérifie, la validation par les pairs vérifie que ça s'est bien passé, qu'ils n'ont pas fait de faute, disons, d'une certaine façon, il n'y a pas de faute professionnelle, entre guillemets. Et puis ensuite, on discute. Et la discussion fait émerger la réponse qui est, il y a eu un problème technique qui n'avait pas été finalement détecté. C'est eux-mêmes, en fait, qui l'ont trouvé, mais ça a été sollicité parce que plein de propositions ont été faites. Il y a des propositions théoriques qui ont été faites. Ah, si les neutrons ont plus de lumière, alors bla 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 bla. Des propositions techniques. Bon, écoutez, les cocos, vous avez oublié de faire ça. Non, non, on l'a fait. Bon, les cocos, vous êtes gentils, mais vous oubliez de faire ça aussi. Non, non, on l'a fait aussi. Et puis cet aller-retour a fini par, ok, ce n'était pas une observation réelle, c'était un artefact qui venait d'un problème de connectique, tout simplement de câble, de la façon dont les câbles étaient branchés. On a trouvé l'endroit, ça a été validé, le résultat a été enlevé, mais c'était le processus normal de validation scientifique. Donc, pour un truc extraordinaire, on veut des preuves extraordinaires.
Bien sûr.
C'est quelque chose d'extraordinaire. On veut des preuves. Donc, quand les preuves sont trouvées, bon, tout le monde est d'accord, c'est plus une discussion. Il y a un consensus qui se fait, et là, après, on passe dans un autre mode. C'est, il y a une découverte incroyable, l'existence d'une nouvelle Terre. On sait où elle est, on a des informations, on n'a pas toutes les informations, parce que là, la première information, c'est elle existe. Et on peut valider la phrase,
elle existe.
C'est une nouvelle Terre.
Oui.
Son âge, tous les détails, évidemment, c'est comme un objet très lointain, très faible, les observations vont être très difficiles à mener. Donc plein d'informations sont manquantes. Est-ce qu'il y a des humains? Non.
Alors,
des êtres vivants dessus? Est-ce qu'il y a de la vie, ne serait-ce que de la vie, même bactérienne? Tout ça, c'est des informations qui arriveront. Mais alors, plus la question est précise, plus le temps pour l'obtenir la réponse
alors,
sera long.
Justement, avant de passer à d'autres aspects, le processus de vérification scientifique donc, peut prendre énormément de temps. En moyenne, par rapport à la détection d'une exoplanète, d'une nouvelle exoplanète, peut-être semblable à la Terre, justement, combien de temps prend le processus de vérification,
Olivier? Ça peut dépendre de l'orbite de la planète, ça peut dépendre de la difficulté d'obtenir des données, ça peut être de quelques mois à quelques années.
Si on parle d'une Terre, je traduis que dans ton esprit, on parle d'une Terre à côté d'un Soleil comme le nôtre, à une distance d'une unité astronomique de son étoile. Auquel cas, de toute façon, il faut au moins 2 transits pour avoir le rayon. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 2 années d'observation. Et...
2 transits, ça veut dire si on la détecte,
par exemple... Peux-tu nous expliquer, expliquez-nous le transit, parce que peut-être certaines personnes...
Le transit étant simplement l'éclipse, en quelque sorte, quand elle passe entre son étoile et nous-mêmes, et ça permet de mesurer le rayon. Et au-delà de ça, il y a une vérification au sol, plutôt une mesure au sol qui est obligatoire pour aller, par effet Doppler, sur l'étoile, mesurer la masse de la planète. On parle d'aujourd'hui, quand on va parler de la mission Plateau à l'Agence spatiale européenne, c'est exactement ça qu'on va faire et on va ce qu'on est en train de discuter là, je pense qu'en 2030, c'est fait. C'est-à-dire qu'on aura des terres comme celle-là en 2030 avec Plateau, qui sera donc cette mission qui va mesurer des transits sur une terre. Il va falloir au moins 2 mesures, donc c'est un an et demi à suivre. Les validations qui suivent, c'est quelques mois, pas plus. Et comme il y aura le suivi au sol pour la masse, voilà, au total, sur 2 ans, on est sûr de nous. Enfin, quand ça s'est annoncé, c'est sûr. La question de l'âge va avec, parce qu'en fait, là...
Bien sûr.
En fait, tu peux pas me dire qu'on connaît pas l'âge, parce que pour avoir la précision nécessaire à la taille de la planète, en fait, il faut avoir la précision sur la taille de l'étoile, et cette précision sur l'activité de l'étoile qui est associée à sa taille va nous donner son âge. C'est ce que va faire Plateau aussi. Et aujourd'hui, pour arriver à mesurer une planète comme celle-là, en fait, je monte du doigt parce qu'elle est devant moi. Hein, c'est pour ça, elle est pas là. Moi, c'est... Pour arriver à mesurer avec cette précision une planète masse-rayon comme la Terre. On va être nécessairement obligé d'avoir aussi l'estimation de l'âge du système, qui est un élément crucial pour la suite, à savoir
quel devrait être l'âge d'un système qui pourrait potentiellement justement être une Terre. Quel serait l'âge moyen d'un système qui pourrait correspondre à la Terre
pour avoir des hommes ou pour avoir des
pour avoir moins de la vie, on se base sur l'âge du système solaire, par exemple, on prend comme référent
l'âge du système solaire, c'est 4,56 milliards d'années. Il y a des systèmes, on sait qu'il y a des systèmes extrasolaires qui sont plus anciens que ça, il y en a des plus jeunes aussi, on le sait aussi, on les a vus et on sait les dater avec une assez bonne précision qui est de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années sur un âge de plusieurs centaines ou plusieurs milliards, centaines de millions ou plusieurs milliards d'années, donc ça fait une précision qui est relative, qui est assez bonne. Sur Terre, on estime que il y a 3,8 milliards d'années, on sait par les fossiles, donc les stromatolites australiens, on sait qu'il y avait de la vie organique terrestre il y a 3,8 milliards d'années, la Terre a 4,56 milliards, donc voilà. Par contre, 700 millions d'années, disons, voilà, ou 700 millions d'années, c'est un bon. Donc un système qui est aussi jeune que 6 à 700 millions d'années, il faut commencer à discuter pour une vie microbienne. En tout cas,
par contre, ça ne veut pas dire qu'elle
était... Même à partir de 600, 700 millions d'années, c'est suffisant.
Ouais,
mais pas pour la vie humaine.
Pas pour avoir l'oxygène.
Voilà.
Là, tu nous as annoncé qu'elle était blindée d'oxygène, oui. Et ça, c'est pas compatible avec une atmosphère secondaire de planète tellurique.
Exactement.
Donc, il est nécessaire qu'elle soit nécessaire. Voilà, on n'a rien compris. Hein, c'est de l'anthropomorphisme primaire, tout ça. Mais le fait est qu'elle doit nécessairement être beaucoup plus ancienne pour avoir un tel taux d'oxygène, avec une activité biologique quelconque qui va générer ce taux d'oxygène. Parce que c'est pas naturel sur une planète sans vie.
Bien sûr.
Parce que la Terre primitive était bien plus riche en dioxyde de carbone que maintenant, bien plus riche. Elle était surtout dépourvue de dioxygène. Le dioxygène qui vient essentiellement de l'activité photosynthétique des premiers organismes photosynthétiques, les algues bleues et les stromatolites. Et ces êtres-là transforment ils mangent du dioxyde de carbone, ils donnent du dioxygène. Mais la subtilité, quand même, je la donne parce qu'on l'entend pas souvent. En mourant ces êtres, ils se décomposent. Et pour se décomposer, ils sont oxydés par le dioxygène qu'ils ont produit et ils redonnent du dioxyde de carbone. Ça veut dire que, en gros, une forêt, ça produit du dioxygène, oui, mais les arbres qui meurent consomment du dioxygène. Donc une forêt à l'équilibre ne consomme pas et ne produit pas de dioxygène.
C'est un stock.
C'est un flux entrant, ça produit du dioxygène parce qu'il y a les arbres qui poussent, les jeunes, mais ceux qui meurent et qui pourrissent consomment du dioxygène. Donc à l'équilibre, une grande forêt à l'équilibre ne produit ni ne consomme de dioxygène. Donc l'Amazonie, poumon de la planète, mon œil, quoi. Hein, d'accord, c'est pas vrai. Ce qui est important, ce sont les arbres. Plus exactement, les êtres photosynthétiques qui ont produit du dioxygène pendant leur vie et qui meurent à l'abri du dioxygène. Et ceux qui meurent à l'abri du dioxygène ne pourrissent pas, ne consomment pas de dioxygène pour refaire les matières organiques de base et l'oxydation maximum du carbone qui est le gaz carbonique. Et du coup, pour faire gros, c'est pas tout à fait juste parce qu'il y a beaucoup plus de dioxygène que ça, mais pour faire gros, tout le pétrole, tout le charbon, tous les combustibles fossiles, ce sont des arbres qui sont morts et qui se sont décomposés à l'abri du dioxygène. Et eux, ils ont produit et n'ont pas reconsommé. Donc c'est ce genre d'activité-là, mais le carbone qui est dans le pétrole, etc., etc., c'est très insuffisant pour expliquer les 10 puissance 15 tonnes de dioxygène qu'il y a dans l'atmosphère. Mais c'est ça qui fait du dioxygène. Donc les arbres que vous coupez et que vous mettez sous une chape de béton, vous mettez dans les sédiments de l'Amazone, par exemple, bref, qui sont enfouis à l'abri du dioxygène, ce sont ceux-là. Ce sont les êtres qui meurent, qui tombent au fond de l'océan et qui se décomposent au fond de l'océan, qui font les couches sédimentaires au fond de l'océan et qui meurent à l'abri du dioxygène, en ne se décomposant pas. Voilà. Donc c'est cette accumulation lente qui finit par faire la teneur de dioxygène que nous avons maintenant, qui a été dans le passé, qui n'était nulle dans le passé, qui s'est accumulée petit à petit. Voilà.
Alors, donc ça veut dire
que non seulement il y a l'âge du soleil, mais aussi il y a l'ancienneté de la vie déjà microbienne, disons photosynthétique. D'accord. Si c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est cette planète qui est importante.
Donc ça veut dire que les scientifiques ici présents, et après je vais me tourner aussi vers l'auteur, Laurent Genefort, vous avez déjà des protocoles précis qui vous permettent de déterminer non seulement la compatibilité de l'existence d'une planète semblable à la Terre avec l'âge du système, et puis, dans sa composition même, en réalité, des preuves qui permettent d'apporter, ou en tout cas, des faisceaux d'indices qui permettent de penser qu'il s'agit d'une probabilité crédible, en quelque sorte. Vas-y.
Non, juste pour confirmer, encore une fois, vu le scoop que tu as annoncé, une planète masse et rayon de la Terre avec une atmosphère
semblable,
très riche en oxygène, c'est ça au départ. C'est ce qu'on a comme info, et après, on va rajouter l'atmosphère. Bon, toi, tu vas plus loin parce que tu dis qu'il y a une couverture océanique,
oui.
Ce qui est quand même pas coton à trouver, ça c'est un autre débat. Mais vu l'atmosphère que tu donnes et vu les caractéristiques que tu donnes, oui, là il y a un loup, clairement. Il y a D'accord. un loup qui nous amène à un débat très sérieux. C'est pas une planète, c'est pas juste un objet avec des cailloux qui a les mêmes caractéristiques que la Terre. C'est un objet avec du caillou, il s'est passé quelque chose de complètement similaire à ce que nous on a vécu depuis plusieurs milliards d'années.
D'accord.
Ça c'est clair.
Alors justement, on en vient à la question donc qui va non pas au-delà de la science, mais qui va compléter la science. Bien sûr, on va parler des premières missions qu'on pourra peut-être envoyer en direction de cette exoplanète, ou en tout cas les vérifications, les processus de vérification et les compléments d'informations que nous pourrons avoir. Mais je me tourne aussi vers Laurent Genefort, écrivain de science-fiction. Quel impact pour l'imaginaire humain? On sait que la science-fiction imagine des mondes depuis des décennies, depuis des siècles. On sait que Giordano Bruno déjà imaginait la pluralité des mondes. Mais aujourd'hui, quel impact pour l'imaginaire humain, et en particulier la science-fiction, de savoir qu'il existe, ça y est, véritablement, enfin, un monde semblable à la Terre?
Cette révolution de la pensée, elle est déjà en route, en fait, je dirais. Je pense que statistiquement, on a déjà plus ou moins intégré le fait qu'on trouvera des terres, pas forcément vraiment d'une Terre 2, mais en tout cas une Terre sur laquelle la vie a pu éclore, même si on n'a pas la preuve. Mais si on se réfère au principe de médiocrité que les réactions chimiques sont partout les mêmes, si on les reproduit de façon à peu près identique, on peut considérer que la vie est disons avant la découverte des exotères, enfin des exoplanètes, ça restait une hypothèse. C'était très très vraisemblable, mais ça restait une hypothèse. À partir du moment où on a eu où c'est passé dans le champ de l'expérimentation et que ça a été validé, il y a quelque chose qui s'est passé sur lequel on ne reviendra plus jamais. Ce n'est plus une simple expérience de pensée, en fait. C'est à partir du moment où on a la preuve, on rentre vraiment dans le champ de la science, alors que ce n'était malgré tout qu'une hypothèse, la pluralité des mondes. Et donc, la révolution, elle a déjà eu lieu, en réalité.
Et donc, ce changement de modèle, de paradigme, on va dire, il a déjà été acté, ouais. En somme, il y a 20 ans, en 95, par la découverte de Queloz et Mayor.
Exactement.
C'est ce que vous dites.
Mais en même temps, il faut une génération pour l'assimiler. C'est en ce moment que le grand public, il suffit de voir le succès justement de l'astronomie maintenant, quoi, ça a fait naître des vocations, ça a fait flamber des vocations, la découverte de ces exoplanètes.
Justement, pour les scientifiques, quel est l'impact sur la pédagogie de l'univers, la pédagogie que l'on fait à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université? Est-ce que c'est déjà intégré, les exoplanètes? Est-ce que les exoplanètes sont dans les programmes scolaires? Est-ce qu'aujourd'hui on enseigne à nos enfants qu'il y a d'autres mondes et que ça n'est plus une simple expérience de pensée? Quel est le regard que les scientifiques intéressés par la communication des connaissances que vous êtes, Olivier et Roland, jetez sur cette
Alors c'est certain que, comme le disait Laurent, avant 1995, on se doutait qu'il y avait des exoplanètes, mais on n'en avait pas la certitude. Et c'est tout autre langage maintenant, où on est sûr qu'il y en a, et il y en a maintenant avec un nombre suffisamment important pour qu'on puisse commencer à faire des statistiques et commencer à parler de grand nombre et de dire qu'il y a quelques planètes par étoile statistiquement dans la galaxie. Comme il y a environ 100 à 150 milliards d'étoiles, ça fait un bon paquet de milliards de planètes. Et c'est plus trop une discussion maintenant. On n'est plus à est-ce que c'est 100 milliards ou 150 milliards. On voit bien que c'est plus le détail. On sait qu'il y en a un grand paquet de milliards dans la galaxie. Et donc, dans ce grand paquet de milliards, maintenant, on a la confirmation qu'il existe une Terre bis. Donc, ça veut dire que dès qu'on en a une, on est sûr. Donc, ça change vraiment le statut. C'est pas peut-être, mais on est quand même dans l'hypothèse. Le scientifique doit rester propre sur la façon dont il dit les choses. Il ne peut pas dire on en est sûr. C'est une hypothèse, mais maintenant on en est sûr. Alors quand on en est sûr, alors on va commencer à en voir une, puis après il y aura deux, puis trois, puis cinq, puis dix, évidemment. Et puis après il y en aura un nombre suffisamment grand pour qu'on puisse commencer à faire des statistiques, et après on va pouvoir commencer à se dire, ah ben donc, il y a donc un certain nombre de paquets de centaines de millions, ou de dizaines de millions d'exotères. Et là on commencera à avoir des idées plus précises sur ça, et donc ça commence à rentrer dans le champ de la science quantitative, statistique éventuellement, mais quantitative, et le discours change complètement. Donc on a vraiment, on n'est plus dans le champ de l'hypothèse, où on se doute bien que, et on étudie, et on prépare, et on réfléchit, mais on est dans le champ de l'expérimentation, ou de l'observation directe. D'accord. Et là, ça change complètement le statut de l'objet, évidemment.
D'accord. Oui, en fait,
tant pour les scientifiques que pour l'enseignement ou pour la pédagogie,
bien
évidemment.
Sûr. Alors d'abord, Laurent,
par rapport
et puis
à ta
après,
question, oui, excuse-moi. En fait, je voulais rebondir par rapport à ta question à laquelle je n'avais pas répondu. Ce qu'a changé aussi pour l'imaginaire, et notamment dans la SF, la découverte des exoplanètes, c'est la variété. C'est la variété des situations. Et ça m'a rappelé, en fait, dans les années 70-80, quand on a eu des données beaucoup plus affinées sur le système solaire, on s'est aperçu qu'il y avait un volcanisme, même très très loin du Soleil, des situations qu'on n'avait pas anticipées. Et la découverte des exoplanètes, on s'est aperçu qu'il y avait des planètes autour de systèmes binaires. Avant, c'était une hypothèse assez peu soutenue. Des planètes autour de systèmes ternaires, ou alors avec qui gravitent à quelques millions ou même quelques centaines de milliers de kilomètres de la surface de l'étoile. Enfin. On a découvert toute une.
C'est la variété, en fait, c'est toujours
tout
pareil.
Un
c'est la
bestiaire
surprise.
De planètes qu'on n'avait pas anticipé, en fait. Et d'accord. Ça, pour l'écrivain de SF, c'est génial, parce qu'on se dit, ah, l'univers est beaucoup plus riche. Voilà, on avait une sorte d'image figée de la vie. Voilà, la vie devait être à une UA à peu près sur un système simple.
C'était l'époque de Asimov avec la zone d'habitabilité.
Il fallait que ce soit des systèmes solaires qui soient rigoureusement identiques à la Terre, et on s'aperçoit en fait qu'il y a plein de situations et donc plein de possibilités, plein de clés d'entrée de la création de la vie, quoi.
Oui, ce qui est une très bonne nouvelle pour les futurs auteurs de science-fiction qui vont pouvoir réintégrer des systèmes binaires sans passer pour des élucubrations.
Ou plein de choses.
Mais voilà. Ça, c'est de la science-fiction, comment commencer le festival. Alors, Olivier Grasset, toi qui es planétologue, toi qui vis ça au quotidien, la planétologie, c'est ta mission, c'est ta passion, ton travail. Les aspects pédagogiques de cette découverte, comment tu vois leur diffusion? Faut-il attendre encore? Faut-il...
Faut aller doucement. Comme toujours, on est dans une discipline en perpétuelle évolution, mais extraordinairement rapide. 2007, premier congrès à Nantes sur les exotères, sur les superterres, on les appelait à l'époque. Michel Mayor annonçait, juste au-dessus, en auditorium 450, que les connaissances de l'époque nous permettaient de dire qu'a priori, 30% des systèmes stellaires qu'on regarde dans le ciel devaient posséder des terres. Aujourd'hui, on est des terres comme celles que vous voyez sur l'écran. Aujourd'hui, on est bien plus prudent parce qu'on a compris en quelques années que c'est pas le tout d'avoir l'objet. Il faut aussi un sacré paquet, le système stellaire. Il faut aussi un sacré paquet de phénomènes. Et en particulier, on a compris que notre système solaire est extrêmement particulier avec le coup de Jupiter qui a été rattrapé par Saturne, qui a fait une résonance, qui a fait que Jupiter est reparti là où il devait aller et ce qui a sauvé les planètes telluriques. Je vais un peu vite, je m'excuse, mais on comprend aujourd'hui dans les modèles d'évolution que la routine, c'est de mettre un super Jupiter à côté de son étoile, à quelques centaines de milliers de kilomètres. Mais que la grande majorité des cas, c'est les planètes géantes, elles rentrent dans le système interne dans le premier milliard d'années, elles balayent tout ce qui est en train de se former à l'intérieur et exitent le système planétaire. Et c'est beaucoup plus routinier que ce qu'on croit. Mais ça marche quand même dans certains cas, on est là pour le dire. Et ça en préambule pour dire que enfin, en tout cas, personnellement, je suis extrêmement prudent sur ce que j'annonce ou ce que je dis à mes étudiants au niveau universitaire. Parce que chaque année, dans les groupes de système solaire à l'ESA, où je travaille, on est dans les compétitions sur les missions d'exoplanétaux, c'est-à-dire plateau, la mission Ariel qui va trouver des atmosphères, etc. Et chaque année, on doit se mettre au goût du jour, c'est-à-dire que la science évolue extrêmement vite. Il y a des gens qui bossent maintenant sur la pertinence de la tectonique des plaques sur des super-terres. Il y a des gens qui sont sur la nature des champs magnétiques qui vont se créer en fonction de la proximité de l'étoile. Même Michel Mayor est sidéré. Tous les mois, j'étais avec lui cette semaine. Au début de semaine, il me disait « Mais c'est complètement incroyable l'engouement de la communauté scientifique pour ce monde des super-terres et la rapidité avec laquelle des disciplines très différentes se sont accaparées cet objet, enfin, cette discipline, pour en faire une science à part entière. Oui, » Donc aujourd'hui, on est dans le monde, et ce qui a été dit tout à l'heure sur la notion d'une génération, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans un monde en pleine mutation sur les super-terres. Donc, au niveau de l'université, j'ai pas de problème à annoncer ça aux étudiants. Ils ont le bagage scientifique pour le faire. J'avoue ma totale ignorance sur la façon dont c'est abordé dans les lycées, les collèges. Mais je serais surpris que ça aille trop loin. Et j'aurais tendance à dire, faut pas que ça aille trop loin, parce qu'on a encore à peu près rien compris. Il faut bien être conscient de ça.
Oui, alors, vous le voyez, la prudence va de pair avec la science. Et la joie et l'ambition narrative avec l'imaginaire, effectivement, les auteurs vont pouvoir se réapproprier des choses. Il y a des impacts philosophiques, il y a des impacts culturels, identitaires, peut-être même religieux. Qu'est-ce qu'on peut voir derrière l'existence d'une autre Terre? Et puis, comme Roland le disait, d'autres Terres, 3, 4, 5, etc. Alors, on ne parlera pas là de premier contact extraterrestre, c'est quelque chose qui viendra peut-être beaucoup plus tard. Mais maintenant, si on rentre dans une phase 2, c'est vérifié, c'est acquis. Tous les protocoles de vérification ont été accomplis. La communauté scientifique s'est orchestrée, elle s'est peut-être réorganisée autour de sciences nouvelles, peut-être une science des super-terres. Les auteurs de science-fiction sont au premier rang pour imaginer ce que pourra être demain les relations de la Terre d'origine, ou en tout cas de la première Terre avec la deuxième Terre, et puis peut-être d'autres.
Il y aurait les artistes aussi, Hugo.
Les artistes, bien sûr, les artistes. Quand je dis les auteurs de science-fiction, j'entends bien tous les créateurs. Pas que de science-fiction, les terres deviendront une partie de la culture générale, tout simplement, à partir de cette découverte, j'en suis certain. Mais maintenant, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de ce savoir? On va l'enseigner, on va le diffuser, on l'a vérifié, mais concrètement, je voudrais que vous me répondiez vraiment, qu'est-ce qu'on fait avec cette super terre? Tout à l'heure, Olivier l'a esquissé. L'existence d'une Terre avec de l'eau, de la vie, peut-être quelque chose. Il y a un protocole de protection. On ne peut pas faire n'importe quoi. Peut-être il va y avoir des enjeux de type, d'abord scientifique évidemment, mais économique. On va peut-être vouloir y aller. Alors, ça c'est la première question. Pourra-t-on y aller? Elle se trouve à portée, je disais au début, je ne suis pas scientifique, hein, pardonnez-moi, quand je dis qu'elle est à portée, c'est que j'ai compris dans le communiqué que l'on m'a passé, grâce à Roland, qu'elle n'était pas loin, elle n'était pas à l'autre bout de l'univers ou hors de la galaxie. Elle est peut-être à quelques années-lumière. Roland, tu vas peut-être nous le préciser. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir y aller? Est-ce que ça veut dire qu'il faut concentrer notre recherche sur de nouveaux modes de propulsion? On avait Elisa Cliquet du CNES ici, qui nous faisait l'amitié d'être là. Est-ce qu'il est temps de se retrousser les manches et de trouver des moteurs qui soient capables d'aller beaucoup plus vite et de nous amener beaucoup plus loin en beaucoup moins de temps? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est le point de départ?
Alors, le problème de découvrir une Terre sur en orbite autour d'une autre étoile, même très proche, la plus proche c'est 4 années-lumière, mais c'est gigantesque, c'est un gouffre à l'échelle astronomique. Si on veut rester dans le domaine de la science, c'est un gouffre. Et moi qui fais de la SF, où j'essaie de respecter un tant soit peu la notion de distance et d'être réaliste, avec des gros guillemets, hein, parce que je j'hésite pas à trancher avec mon rasoir d'Occam pour quand c'est pas justement pas réaliste. Et moi, j'ai la puissance justement de la fiction que n'ont pas les scientifiques justement. Et cette liberté m'a permis de chinter cette notion de distance avec des trous de ver. Donc j'utilise une super science. Mais parce que je sais très bien que la vitesse de la lumière, même si on l'atteignait, ce qui est pour le moment avec nos moyens absolument impossible, avec les moyens conventionnels et même prospectifs, même réalistes dans ce qu'on peut imaginer comme moyen de propulsion, la vitesse de la lumière, elle est extrêmement lente en fait. 300 000 km secondes, c'est très très lent. Et donc, dès qu'on passe la barrière du système solaire tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire jusqu'à l'orbite de Pluton, on va dire, ou Neptune, si, enfin Uranus, si on veut être... Si on éjecte Pluton du système, c'est franchement irréaliste de penser qu'on puisse envoyer même une sonde.
Ça veut dire pas de super Terre sans super science, en somme.
Bah, ça va pas être. Oui, c'est ça. Je confirme ce que dit Laurent. Ça va pas être facile parce que l'étoile la plus proche, donc c'est Alpha du Centaure, enfin Proxima du Centaure, mais disons Alpha du Centaure. On la connaît bien, Alpha du Centaure. C'est celle qui est dans Avatar, enfin qui est citée dans Avatar. C'est là où il y a la planète Polyphème avec Pandora. Alpha du Centaure est à 4,37 années-lumière, ça veut dire qu'en gros il faut la lumière met un peu plus de 4 ans pour nous venir, sa lumière met un peu plus de 4 ans pour nous parvenir. Par comparaison, la lumière qui nous vient du Soleil met 500 secondes pour venir, et la lumière qui est diffusée par la surface de la Lune met un peu plus d'une seconde, une seconde et demie disons, pour nous parvenir. Donc c'est loin, 4 ans de voyage à la vitesse de la lumière, ça fait loin. En kilomètres, ça fait plus de 40 000 milliards de kilomètres, et les vitesses actuelles, par exemple, la sonde New Horizon qui est passée près de Pluton, elle fait 1 million de kilomètres par jour, ça fait une quinzaine de kilomètres par seconde. Ça veut dire que 15 kilomètres par seconde, elle fait en vitesse de la lumière, comptée en vitesse de la lumière, elle va à peu près 20 000 fois plus lentement que la lumière. Ce qui veut dire que pour faire 4, là où la lumière met 4 ans, elle la mettra 20 000 fois plus longtemps, donc 80 000 ans. Voilà, ça donne une idée des performances de New Horizon qui est passée 1 million de kilomètres par jour, on se dit pas mal, hein. Et en fait, il faudrait 4 ans, ou un peu plus de 4 ans, à cette sonde pour atteindre Alpha du Centaure, si tant est qu'elle vise Alpha du Centaure, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. Donc, c'est des distances qui sont vraiment considérables, et ça nécessite d'aller mais vraiment vite, si on veut que ça se fasse en une durée raisonnable. Un projet scientifique, un projet spatial, c'est en gros la durée de vie des astronomes ou des physiciens qui y participent. Hein, donc, c'est 20 ans, typiquement 25 ans, la durée de vie scientifique, j'entends par là, pas 25 ans, la durée de vie totale. Donc, disons, un scientifique qui arrive, qui commence sa thèse dans un projet spatial, il est un scientifique, disons, très aguerri quand le projet spatial est complètement fini, et il a la bouteille, la capacité à organiser, à structurer le projet spatial suivant, et la fin du projet spatial, il ne la verra probablement pas, certainement pas pendant sa carrière scientifique, et peut-être pas de son vivant. Voilà, c'est typiquement les échelles de temps qu'il faut voir. Donc si on se dit qu'il faut, allez, pour motiver les jeunes, il faut qu'un jeune qui rentre dans le projet interstellaire ou dans l'envoi d'une mission interstellaire vers une sonde là, il faut que ça soit, disons, 30 ou 40 ans pour qu'il espère voir de son vivant, au moins à défaut de son, pendant sa carrière scientifique, il voit l'aboutissement du projet, il a participé à l'élaboration de la sonde et il entend à la radio, ah oui, c'est arrivé, donc il a 90 ans, il entend que c'est arrivé à la radio, il est content, mettons 40 ou 50 ans pour arriver sur Alpha du Centaure. 40 ans au lieu de 4 ans, hein, vous voyez en gros l'ordre de grandeur, il faut aller à un dixième de la lumière. Un dixième de la lumière. Là, on va à un 20 millième de la lumière. Entre un 20 millième et un dixième, il y a un facteur 2000. Tout le monde suit là ? D'accord ? C'est que des calculs de règle de 3. Hein. Il y a un facteur 2000. L'énergie à mettre dans la sonde, c'est 2000 au carré. Par rapport à ce qu'on met maintenant, c'est 10 millions de fois ce qu'on met maintenant.
Oui, voilà. Mais
ça, et déjà, alors... c'est cher. Déjà, oui, mais... c'est cher en techno, en énergie aussi qu'on met dedans. Donc, c'est brutal. C'est cruel, ça me déprime chaque fois que j'y pense, mais alors, voilà, les distances sont grandes, très grandes.
Je vais donner la parole à Olivier, on comprend que les distances sont donc faramineuses, enfin presque invincibles, elles écrasent nos velléités d'exploration, mais il y a deux questions que je voudrais poser. La première à Olivier en tant que planétologue, peut-être il y a d'autres moyens d'explorer sans se déplacer. Quelles sont nos capacités, quelle est notre marge de progression en termes de sensibilité des télescopes par exemple? Ça, c'est une question qui est importante, je pense. Et l'autre, c'est, mais plus général, c'est l'état de nos connaissances scientifiques aujourd'hui, de nos moyens, mais rien ne dit qu'en dans les 50 prochaines années, la recherche, si elle en a les moyens, ne trouvera pas de... Voilà. Alors, d'abord, peut-être sur les télescopes.
Oui, c'est sûr et certain. Évidemment, je ne peux aller exactement dans le même sens que ce que disent mes deux voisins. Aujourd'hui, le monde des exoplanètes demeure et reste... pour un temps sans doute extrêmement long encore, le domaine des astronomes, d'abord et avant tout. C'est-à-dire que les évolutions, enfin les progrès des 20 dernières années sont essentiellement dus aux progrès technologiques qu'on arrive à faire sur les télescopes qu'on envoie dans l'espace et sur les antennes au sol. En gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, on envoie dans l'espace des engins de plus en plus perfectionnés pour faire des mesures des transits ou des rayons, si vous voulez, mais qui vont donc travailler sur les caractéristiques des étoiles, sur tout un tas de choses comme ça, et donc par défaut des planètes qui vont avec. L'avenir aujourd'hui, comprenez bien qu'on les voit pas, ces planètes. La très grande majorité d'entre elles, on sait tout sur elles en termes de masse, rayons, etc., mais on les voit pas. C'est pas du tout notre problème. Tout ce qu'on sait d'elles, on le sait par l'étoile. Et on ne voit pas la planète, on voit juste la chute de lumière qu'elle occasionne à l'étoile, et du coup on déduit quelle est sa taille, et puis depuis le sol on va voir comment la lumière de l'étoile oscille, et ça va nous donner la masse de la planète. Et pour, on a parlé de plusieurs milliers de planètes, oui on en a plusieurs milliers aujourd'hui, 3000 candidats, plus de 1000 garanties, avec Plateau vous serez à 500 000 exoplanètes en 2030, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pour la très grande majorité d'entre elles, et j'entends 99%, nous ne les voyons même pas. Voilà, c'est le monde des astronomes. Là où les choses vont évoluer, vous allez tous vivre avec moi, avec nous ici, c'est que d'ici 10 ans, on aura des images des atmosphères. En fait, on a déjà quelques planètes sur lesquelles on est capable de voir l'atmosphère, sous-entendu la signature chimique de l'atmosphère de l'exoplanète. On arrive à pointer le télescope, masquer l'étoile et déterminer la composition de l'atmosphère de l'exoplanète. C'est pour ça que quand tu dis qu'elle est très riche en oxygène, oui, des missions, d'ailleurs, on a commencé par le James Webb, Space Telescope, Ariel si elle passe, enfin, d'autres missions américaines aussi, sont des missions qui vont avoir cette capacité à détecter la composition d'une atmosphère d'exoplanète. Ça, c'est la suite. C'est toujours le monde des astronomes. Après, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Quand on va parler de faire de la tectonique des plaques, de faire de la géologie, de travailler sur... Accessoirement, on veut parler de vivant, il faut un champ magnétique qui protège, a priori. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Donc là, on va rentrer dans le monde des modèles. Et c'est là qu'il y a, ce que je disais tout à l'heure, une communauté de plus en plus importante qui apporte son expertise, commencer par notre laboratoire. Nous, on n'est pas des astronomes, on est des géologues, mais on travaille sur les exoplanètes parce qu'on apporte notre expertise sur la caractérisation des structures internes. S'il y a une masse et un rayon, je ne peux pas faire à la fois une boule d'hydrogène et une boule de fer. Et qu'est-ce que c'est réellement? Ben ça, c'est les géologues qui le disent. Donc là, mais là, on est dans le monde du modèle. Oui, oui. Astronomie, c'est l'observation. D'accord. Modèle. Mais donc, on n'ira pas. Voilà, on n'ira pas.
Donc ça veut dire que pour l'instant, cette exoplanète qui est là, elle appartient aux astronomes encore pour pas mal de temps. On a bien compris avec Roland qu'on n'ira pas et qu'on ira peut-être en rêve. La différence, c'est que c'est une utopie réelle, puisqu'elle existe et que les auteurs de science-fiction pourront nous raconter ce que les générations futures feront peut-être avec elle. Alors avant de revenir sur la question de l'avancée de la science par la recherche, parce que c'est finalement la question que je voulais poser aussi à mes invités derrière cette expérience, derrière cette réalité, je voudrais donner la parole au public, parce qu'on la donne toujours trop tard. Donc y a-t-il une question dans le public pour mes invités, pour... autour de cette exoplanète que nous venons donc de découvrir et que nous ne sommes pas prêts d'investir encore.
Bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette introduction à Apple. On a découvert la e-planète, c'est génial. Ensuite, j'aimerais miser sur une chance cosmique énorme. Imaginons qu'une exoplanète soit capturée par le système solaire. Elle a voyagé longtemps dans l'espace sans lumière. Elle a quand même gardé son atmosphère. A priori, la vie a vécu dans le noir, s'il y en reste. Vu tous les protocoles qu'on a, est-ce qu'il y a un protocole justement de conquête, vu qu'elle serait à portée et qu'elle serait viable, qui peut réclamer quoi sur cette planète? Est-ce qu'on la donne aux colons? Est-ce que c'est international? Voilà.
Alors, c'était la question qui était prévue alors, après, mais allez-y. Merci, monsieur.
Avant de laisser la parole à des gens qui savent vraiment, ça me rappelle l'épilogue de Rayon pour Sidar de Stéphane Vuhl, qui, dans la fin des années 50, avait imaginé justement une planète récupérée, expulsée de son système solaire et récupérée par le système solaire. Par le nôtre. Donc oui, ça avait été imaginé dans les années 50. Alors par contre, je ne crois pas que ça ait survécu aux avancées de la science.
Oui, c'est-à-dire que Il y a des planètes dans la galaxie. On sait qu'il y a des objets dans la galaxie qui ne sont pas des étoiles et qui se baladent entre les étoiles et qui pourraient être des planètes. Alors, peut-être pas des planètes telluriques, hein, mais peut-être des géantes gazeuses ou des étoiles avortées ou des choses comme ça. Capturer par le Soleil, par la gravité du Soleil, ce n'est pas facile parce que il faut, pour ça, vous venez de l'infini, vous êtes diffusé par le système solaire et vous repartez à l'infini. Évidemment, vous changez de direction. Capturer, ça veut dire qu'il faut que vous perdiez de l'énergie pour être capturé. Dans l'espace, il n'y a pas de frottement, a priori, donc ce n'est pas facile. Capturer un objet qui vient de l'infini, ce n'est pas facile. Les comètes non périodiques, elles tombent vers le Soleil, elles font tout un tas de trucs, puis après elles repartent. On ne les voit plus jamais. Donc la capture n'est pas facile. Ce qui fait que, de ce point de vue-là, et quand je dis pas facile, elle n'est même pas facile du tout. C'est-à-dire que cette planète, indépendamment de ses caractéristiques, cet objet, d'une certaine façon, capturé par le Soleil, c'est très improbable, très très improbable. Donc je pense même que la situation n'a même pas été envisagée. Dire qu'est-ce qui se passerait si une planète, je ne parle même pas d'une planète habitable ou d'une planète où il y a de la vie, enfin, si un objet était capturé par le système solaire, qu'est-ce qu'on en ferait? On serait content de pouvoir l'observer, mais la situation n'a même pas été envisagée. Et quant à la question de savoir si on va explorer, coloniser, transformer une planète qui ne serait pas la nôtre, là, la question est déjà posée. C'est le problème. Il y a toute une affaire sur le droit de l'espace. La Lune, par exemple, n'appartient à personne, c'est comme l'Antarctique. Bon, en même temps, il y a ceux qui peuvent y aller et ceux qui ne peuvent pas y aller. Hein. Donc, ceux qui peuvent y aller disent « Oui, ça n'appartient à personne, mais enfin, moi, je ramasse deux, trois trucs à tout hasard. » Donc, bon, ça ouvrira la question quand ça se posera. Si les Chinois retournent sur la Lune, par exemple, ils diront « Mais nous, on peut y aller. Et vous, les Américains, vous faites quoi ?» Donc, l'exploitation par exemple, minière des astéroïdes, l'exploitation de la Lune ou d'autres matières premières qu'on pourrait trouver sur des planètes, la question est déjà posée. Ça ne va pas être facile à faire, mais bon... La question est déjà posée. Il y a des projets qui sont quand même un peu lointains, malgré tout, pas faciles à mettre en œuvre, de capture d'un tout petit astéroïde, d'un caillou qui ferait quelques mètres, une dizaine de mètres de diamètre, et de le mettre en orbite lunaire pour l'avoir sous la main, l'étudier vraiment sous la main, en orbite lunaire et pas en orbite lointaine, et puis éventuellement de commencer à tester des méthodes d'exploitation de cet objet-là, d'exploitation pour ses ressources minières. Bon, c'est quand même c'est pensable, ça reste assez spéculatif pour l'instant. Voilà.
Je crois qu'Olivier veut ajouter quelque chose.
Non, juste pour compléter, la réponse très officielle va être de dire que le contexte est exactement le même que comme pour les autres objets du système solaire, comme l'a dit Roland. Donc on commence par dire il y a des normes internationales pilotées par un organisme qui s'appelle le COSPAR et qui vont interdire a priori à toute nation de s'approprier les lieux. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'imaginons, comme vous l'avez dit, que cet objet arrive... Il va d'abord nécessiter une réunion de ce COSPAR pour décider de ce qu'on doit faire de cet objet très particulier, puisque pour l'instant les normes existent et la loi existe pour tous les objets connus et sont régulièrement remises à jour au fur et à mesure de l'évolution des connaissances scientifiques sur les objets connus, sous-entendu du système solaire. Si celui-là arrive, le COSPAR va faire son boulot, mais le COSPAR n'est pas une instance de décision. Le COSPAR est une instance qui va donner des recommandations et qui n'empêche absolument pas n'importe quelle nation qui a des envies de conquête, puisque vous avez utilisé un mot très particulier qui est le mot de conquête, de faire ce qu'elle veut. Et je rappelle toujours l'anecdote de 2004, George W. Bush, la Cosmic Vision, où il voulait rajouter une étoile au drapeau américain, et c'est la communauté internationale qui a interdit cette conquête de la Lune par les États-Unis d'Amérique. Comme l'a dit Roland, rien n'empêche les Chinois non plus d'aller s'approprier ces lieux avant tout le monde, ou les Russes d'aller prendre le lac Vostok avant tout le monde. Mais le COSPAR fera son boulot et fera des recommandations.
Les enjeux juridiques seront essentiels. On a déjà un droit de l'espace, donc il faudra que ce droit... évidemment s'adapte à ces changements. Encore des questions peut-être? Oui, alors allez-y, là oui. Où est le micro?
Oui, alors ma question est un petit peu une prolongation de celle qui vient d'être posée. Est-ce qu'il n'est pas temps pour des experts en astrophysique, en biologie et aussi pour des avis citoyens de repenser la résolution numéro 2222 de l'ONU et le traité de l'espace de 1967 pour que, et surtout dans le contexte actuel de la COP21, cette future planète, cette planète qu'on vient de trouver, puisse être préservée et puisse être un lieu de vie sain et le demeurer à vie.
Alors, préserver.
Bien sûr, la question se pose déjà, même pour simplement l'exploration de la Lune ou de Mars, hein. Mars, on a envoyé un certain nombre de robots et on explore Mars pour essayer d'y trouver, peut-être, espère-t-on, des traces de vie fossile ou qu'il y a une vie passée sur Mars. évidemment, c'est assez compliqué si on amène nous-mêmes des traces de vie sur Mars. Donc, la question se pose déjà, simplement pour l'exploration des planètes du système solaire. Alors, elle se reposera dans un autre contexte. L'inconvénient, ou si je dirais l'avantage de Mars, c'est qu'elle est sous la main. Donc là, la pollution humaine sur Mars, elle est déjà très concrète. Il y a déjà des objets, des artefacts humains sur Mars qui n'étaient pas avant qu'on y aille. Il y a déjà une sorte de pollution de Mars, comme une sorte de pollution de la Lune, comme il y a une pollution du mont Everest avant qu'on y aille à l'Everest. Il y avait personne, c'était, disons, protégé et pur. Et depuis qu'on va sur l'Everest, maintenant, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel par tous les gens qui ont été sur l'Everest. La question se pose un peu plus, de façon un peu plus compliquée, parce que c'est difficile d'aller sur la Lune ou d'aller sur Mars. Pour aller sur une exoplanète comme celle dont parlait Hugo initialement dans son communiqué, la distance est si grande qu'on est quand même assez tranquille quant à la pollution humaine sur cette planète-là. Elle finira peut-être par se poser dans un futur lointain. Disons que dans le prochain siècle, je pense qu'on est assez tranquille. On va pas trop la polluer, sauf peut-être par nos émissions électromagnétiques, parce que si elle est à quelques années-lumière, elle a reçu la diarrhée mentale qui est émise par les émissions télévisuelles terrestres, par exemple. Et donc, s'il y a une conscience avec des moyens techniques de captage de radio, ils vont recevoir tout ça et ils sont peut-être un peu consternés par ce qui se passe sur Terre.
Oui, mais autant que le droit se saisisse de la question dès qu'elle se pose. Le droit aime bien travailler sur les expériences, justement, même si la concrétisation ne se fait pas tout de suite.
Oui, bien sûr. Alors, on peut poser la question en droit, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais ça tombera, je pense, sous les mêmes... Alors, si on sait qu'il y a de la vie dessus, ça pose un niveau supplémentaire. C'est-à-dire que sur Mars,
préserver
il
n'y
a probablement pas de vie actuellement sur Mars. Très probablement pas de vie actuellement sur Mars. On espère trouver des traces de vie fossile. On n'en est pas sûr. Tout ce qu'on veut, c'est pas perturber l'observation. C'est comme je ne mets pas mes gros doigts baveux sur la tâche sur le télescope pour ne pas perturber l'image. Donc voilà, j'essaie de ne pas perturber l'observation que je fais. S'il y a de la vie, là, c'est autre chose. C'est un autre
Mars, niveau. Mars, c'est un peu la première... C'est la première exoplanète, en fait, qu'on a découverte, Mars. Enfin, la première exoplanète habitable, entre guillemets, qu'on ait découverte, puisque pendant... après tout, il y a une ou deux générations de scientifiques au début du XXe siècle qui étaient convaincus qu'il y avait de la vie sur Mars. Donc c'était une exoterre dans notre système solaire. Et pour répondre au monsieur à sa question, la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson traite exactement de la problématique que vous avez soulevée. C'est-à-dire, faut-il polluer ? Effectivement, il y a une faction de colons dans les 100 premiers qui sont envoyés sur Mars, qui luttent contre l'établissement d'une colonie martienne.
Oui, contre l'humanisation de Mars et donc l'altération de son environnement. Alors peut-être
à Olivier. Puisque vous avez mentionné le traité de l'espace 1967, que je peux vous garantir, c'est que ce type de document, évidemment, ce n'est pas les scientifiques qui les remettront à plat, mais ce qui va nécessiter une remise à jour, ce n'est pas notre capacité à aller voir Mars, la Lune, qui n'a aucun intérêt d'ailleurs là-dessus, mais les lunes de Jupiter ou cette exoplanète. Par contre, c'est quand on va ramener des échantillons. On ne s'était pas posé la question sur la Lune, on se la pose sérieusement sur les échantillons martiens. Les procédures de curation qui sont nécessaires pour des échantillons extraterrestres, c'est-à-dire une fois qu'on commence à réaliser le risque potentiel pour l'espèce humaine, c'est ce genre d'actualité qui va nécessiter une remise en cause du traité de l'espace 1967 ou toute autre documentation similaire. C'est ça qui va faire changer les choses.
Bien, écoutez, je suis tout à fait désolé, je viens de recevoir un mail qui me montre qu'en fait je me suis fait avoir une fois de plus par les bêtises qu'on lit sur Internet. Je vous prie de m'en excuser, c'était un hoax. Nous n'avons pas découvert de Terre numéro 2. Peut-être nous le ferons un jour. Désolé de vous avoir précipité sur scène et dans cette hypothèse. Mais en tout cas, merci de toute la science et de toute l'imagination que vous avez bien voulu déployer. Et puis, qui sait, tout est possible dans le futur. Alors, merci à vous. Voilà, bonne continuation.
Merci.